Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi. C'est un plaisir de démarrer cette toute nouvelle semaine avec vous à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Story Canal 23, avec autour de la table tout d'abord Rémi Barré. Salut Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Il y a également Perico Légas, journaliste à Marianne. Bonjour Perico.
Oui, sous l'émotion des obsèques de la reine d'Angleterre, c'est quand même des grands instants historiques.
Oui, ouais. Enfin, il tant que ça se termine, ça commence à faire longtemps quand même.
Aussi, oui. Aussi. Mais il y a le couronnement maintenant du roi.
Oui, bah, on n'y est pas encore. Ouh là là.
C'est l'Angleterre.
Laissez-nous respirer. Tout à fait. On est avec Jérôme Lavrieux, propriétaire de gîte désormais. Ça va, Jérôme?
Oui.
Vous avez passé un bon week-end?
Très bien. J'ai fait le ménage tout le week-end.
Ah bah écoutez, super. Mais venez chez moi parce qu'il m'en reste encore un peu.
Mes tarifs sont moins élevés qu'ils ne l'ont été, donc je peux venir. Si
ah bah écoutez, ce sera avec grand plaisir. Il nous revient du Vietnam. C'est le docteur Robert Swag. Ça va, Robert?
Un peu en décalage horaire, mais ça va.
Ouais, bah,
ravi d'être ici.
Eh bien, vous allez vous rattraper pendant l'émission. Vous allez voir, on a un beau sommaire et vous allez rester éveillé, je l'espère, pendant 3 heures. Au sommaire aujourd'hui, justement, le député Adrien Quatennens qui se met en retrait de ses fonctions chez LFI après avoir reconnu une gifle sur sa femme. Peut-il rester député? On attend vos réactions au 32-16. À midi et demi, Emmanuel et Brigitte Macron en basket avant les funérailles de la reine Elisabeth II. Est-ce que ça vous choque? À 13h, on nous dit désormais comment nous laver les mains, à combien on doit mettre le chauffage, quand on doit faire des machines. Est-ce qu'on nous infantilise trop? On attend vos réactions, vos avis sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi et une révolution dans l'immobilier. On va bientôt pouvoir acheter un appartement pièce par pièce, en fait en fonction de nos moyens. À 14h, la tribune de 100 jeunes pour défendre les valeurs de la corrida face à la proposition de loi d'Émeric Caron pour interdire les courses de taureaux. Faut-il maintenir les corridas en France? Et puis Rémi, on a des cadeaux aujourd'hui?
Non. Voilà.
Et ben, j'étais pas sûr.
Mais en revanche, pour que les cadeaux restent exceptionnels, oui. Il faut que les semaines soient exceptionnelles.
Et, mais vous avez bien raison. Et mais en revanche, sur les immanquables, bien sûr.
Voilà, on les aura.
Il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et ça, ce sont de très beaux cadeaux que vous nous faites chaque jour dans Estelle Midi, Rémi.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC et on va démarrer tout de suite avec l'affaire du jour. C'est l'affaire Adrien Quatennens, bien sûr. Le député a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions de coordinateur chez LFI après avoir reconnu une gifle sur sa femme. Une affaire qui suscite beaucoup de débats à gauche entre ceux qui saluent le retrait d'Adrien Quatennens et ceux qui aimeraient qu'il aille encore plus loin.
Oui, en cause donc ces violences répétées sur son épouse. Ils sont en cours de séparation. Le député de la France Insoumise a lui-même reconnu avoir donné une gifle à sa compagne, une bousculade également au cours de laquelle elle se serait cogné le coude alors qu'il venait de lui confisquer son téléphone portable, ça c'est lui qui le dit, hein, sans compter apparemment d'autres violences plus récentes qui auraient justifié le dépôt d'une main courante par sa femme la semaine dernière. Et c'est dans ce contexte donc que de nombreuses personnalités à gauche ont salué hier sa décision de se mettre en retrait de ses fonctions de coordinateur de la France Insoumise. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon qui se félicite qu'Adrien Quatennens assume, alors que l'eurodéputé de la France Insoumise Manon Aubry parle d'une décision nécessaire et inéluctable. Plus radical, l'écologiste et féministe Sandrine Rousseau estime que le député du Nord doit se mettre en retrait de tout le temps que la justice se prononce, donc on sait que ça peut prendre un certain délai, et de réclamer également des sanctions de la part de son parti.
Alors, Adrien Quatennens peut-il rester député? C'est la question que nous vous posons et que je vous pose, Perico Légas.
Nous sommes dans le contexte d'une scène de ménage, on se fout sur la gueule, c'est partie de la...
Oui,
non, je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est une scène de ménage, c'est une situation totalement privée. L'épouse, en déposant sa main courante, a bien dit qu'elle ne voulait pas que ce soit politisé. Il y a une contradiction. Il est médiatisé. Lui reconnaît qu'il a eu ces gestes malheureux déplacés. On est dans le strict cadre de la vie privée. Le mandat parlementaire, là, je parle un peu juridiquement, n'est pas remis en cause. Ce que je voudrais savoir, c'est ces gens de la France Insoumise, pour lesquels j'ai le plus grand respect, qui sont sans pitié avec leurs adversaires. Et si c'était un député de droite ou de La République En Marche qui a vu ce problème, je suis persuadé.
Ah oui, ils appelleraient à la démission, c'est sûr.
Alors, avec Coquerel et avec Quatennens, ils découvrent le contexte où il faut s'expliquer, où on peut trouver des circonstances atténuantes, un contexte particulier. En tout cas, voilà, on gère la situation, on raisonne et on argumente. Très bien. Mais qu'ils consentent cette même marge de manœuvre à leurs adversaires. Or, chaque fois qu'il y a eu un problème de ce genre, c'est robespierrien, c'est impitoyable, le coup près doit tomber. C'est Sandrine Rousseau, c'est elle qui représente. Alors, elle est bien, elle l'applique à tout le monde. Ce qui est bien avec Sandrine Rousseau, c'est que tout est prévu, tout est attendu. Elle est, voilà, c'est extraordinaire. C'est très pratique à gérer des gens comme ça, il en faudrait davantage. Donc là, Quintenas est quelqu'un d'éminemment compétent. C'est une machine de guerre, il est brillantissime. On sent que c'est quelqu'un qui est assez tranché sur ses... quelqu'un qui est assez tranché sur ses opinions. C'est le système Mélenchon, c'est-à-dire qu'on est implacable quand on a la sensation à ce point-là d'avoir le droit et la raison avec soi, on est impitoyable. Ce sont des gens qui sont quelquefois sans discernement. Là, ils découvrent la réalité. Donc tout ce que je leur demande, ils ne doivent pas démissionner. Je le dis. Tout ce que je leur demande, c'est qu'ils aient la même attitude, le même respect de la situation avec les adversaires.
Mais ça veut dire quoi? C'est injuste.
Ça veut dire qu'on leur dit, OK, Coquerel, Quatennens, vous avez eu des explications.
Coquerel, il nie.
Il nie, d'accord. Donc, il nie et ils acceptent des négations de Coquerel. Alors que si c'était quelqu'un d'autre qui niait, on dirait, c'est pas vrai. Donc, je leur demande juste, puisqu'ils apprennent ce qu'est la réalité, qu'ils aient la même souplesse, la même tolérance et la même ouverture d'esprit avec leurs adversaires politiques, si ça devait arriver à quelqu'un d'autre. Qu'ils en tirent les conséquences. Moi, je suis pas pour la punition, là. Sauf si on apprenait que c'est grave. Voilà. Tout ce que je leur demande, c'est de mettre sur le...
Grave. Et il lui a donné une gifle. C'est grave.
Il a donné une gifle, il l'a reconnu.
Bah oui, d'accord, c'est grave.
Voilà, c'est une gifle dans... Alors, quelle gifle, comment, dans le contexte...
Non, mais quel que soit le contexte, très mal, c'est une gifle.
Voilà, alors pour autant, le mandat parlementaire d'un député de la Nation n'est pas remis en cause parce qu'il a mis, dans le cas d'une scène de ménage, une gifle à son épouse. On n'en est pas encore là.
Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il peut encore siéger, tout simplement, Adrien Quatennens, ou c'est fini? Parce qu'à chaque fois qu'il va, il va faire une proposition,
il va être
à l'Assemblée et que ce sera très difficile pour lui.
Cette histoire, c'est l'histoire d'un boomerang qu'on se prend en pleine figure. Parce qu'ils ont essayé de lancer des boomerangs dans la figure des autres sans penser qu'il allait revenir un jour. Et ça, c'est un vrai problème. Ce serait n'importe qui d'autre, moi je dirais, c'est à la justice de faire son travail. Je rappelle que pour être élu, il n'y a qu'une seule personne qui décide, c'est l'électeur. Pour être démis de son mandat, normalement, c'est soit vous perdez l'élection, soit vous démissionnez parce que vous êtes nommé ministre, etc. Mais on ne peut pas vous forcer à démissionner. Ou alors, c'est parce que la justice, à la fin d'une procédure, dira le droit. Qui a fait quelque chose de pas bien? Je peux vous en parler savamment, de ce genre de processus judiciaire. Et parfois, il faut laisser du temps. Parce que
mais la loi ne va pas le déclarer inéligible, vous le savez très bien.
Là où il y a un problème, c'est que, un, comme le disait Péricot, fort justement, il donne des leçons à longueur de journée, à longueur de télé, de radio, en permanence sur tout le monde, avec une violence inouïe, sans écouter, parce qu'on a tous le droit... de se défendre. Même le pire des salopards a le droit de se défendre. Et si on a créé la justice, c'est pour qu'on la rende pas sur un plateau, c'est qu'on la rende pas dans un bureau politique d'un parti politique.
Ou des réseaux sociaux.
Et ça se fait ni encore moins sur les réseaux sociaux. Mais là où il y a un problème, c'est qu'il lui arrive ce qu'il a dénoncé chez tous les autres. Je parle pas de taper, tout le monde doit le dénoncer.
Enfin, tout le monde ne tape pas, quand même.
Je suis d'accord, je ne parle pas de ça. C'est avoir bafoué en permanence la présomption d'innocence pour tous les autres.
Mais donc il n'est pas innocent, il a déclaré qu'il était coupable.
Il se prend le boomerang en pleine figure. Il se prend le boomerang. Moi, est-ce qu'il doit démissionner ou pas? C'est une affaire entre lui et lui. C'est tout. Il y a un truc qu'il pourrait mettre en application. C'est une toute petite partie du programme qu'il a défendu devant tout le monde. Ça s'appelle le référendum révocatoire. C'est ce qu'ils ont voulu imposer à tout le monde, de dire que tous les citoyens, au milieu d'un mandat, peuvent décider si on doit le continuer ou pas, en plein milieu du mandat.
Il
démissionne. Il a voulu les jeux du cirque.
Il démissionne.
Il se représente.
Ses électeurs diront s'il le garde ou pas.
Robert Sebag, ça vous inspire quoi, ce genre d'affaire?
Alors, vous savez, vous arrivez du Vietnam, vous voyez un monde complètement différent, vous débarquez, première chose que vous voyez, la gifle de Monsieur Quatennens avec son épouse. Alors, vous parlez de boomerang, moi je vais parler de l'arroseur arrosé, si vous voulez. Alors, il y a eu quand même une plainte. Ça change tout. Ça change
une main courante.
Enfin, une main courante, mais ça veut dire que ça devient quelque part public, parce qu'on sait qu'il y a quand même des fuites qui sont faites à partir de là. Alors, ce que je veux dire, c'est que la différence, si vous voulez, entre la théorie, il y a eu Tahabouaf, il y a eu Coquerel, il y a lui. Donc ça veut dire que d'un côté, vous avez les hommes, avec leurs qualités, avec leurs défauts. De l'autre côté, si vous voulez, certaines théories. Bon, là-dessus, si vous voulez, moi, ce qui m'a choqué plus, c'est d'abord la première déclaration de Mélenchon. J'ai lu ça. Alors lui, il parle pas du tout de Madame Céline, parce que c'est quand même elle, la victime, quelque part. Il parle uniquement...
C'est la victime, oui.
Oui, d'Adrien. Et après, il se rattrape, parce qu'il y a eu tellement, si vous voulez, en disant, je pense aussi à elle. Alors maintenant, c'est un problème entre lui et sa femme, entre lui et sa morale. Est-ce qu'il doit démissionner? Je suis d'accord. Il y a que les électeurs qui peuvent décider, si vous voulez.
Bah, lui, il peut rester.
Alors, lui, il peut décider.
Ça va être infernal pour lui.
Je remets effectivement mon poste de député à l'élection, et puis on verra s'il passe ou il repasse. Simplement, ça va lui coller quand même à la peau.
Ben, c'est ça.
Ça va lui coller quand même un petit peu à la peau, parce que les donneurs de leçons, quelque part, ben, on s'aperçoit que vous avez la réalité de la vie et que, au-delà, si vous voulez, des symboles, de tout ce qu'on peut dire.
Il était beaucoup sur les plateaux de télé, là, c'est fini. Là, il peut pas se présenter sur un plateau de télé.
On lui ressortira à chaque fois, effectivement, cette chose-là.
D'autant que, contrairement à certaines autres affaires, et c'est peut-être à son honneur, mais il a reconnu les faits. C'est-à-dire qu'il a reconnu avoir.
Et il faut avouer à moitié pardonné.
Il n'y a même pas de présomption d'innocence.
Mais ça peut arriver, et c'est normal qu'on reconnaisse les faits. Parfois, on peut dire je n'ai rien fait. Et on peut avoir 3-4 enquêtes, et à chaque fois bénéficier d'un non-lieu, puis une nouvelle plainte, etc.
Mais tu ne peux pas dire une gifle sur une femme, ça peut arriver.
Non, je ne dis jamais ça. Ce serait mal me connaître que de penser que je puisse évoquer ce genre de sujet. Il reconnaît les faits, je suis d'accord. La gifle, elle a eu lieu il y a un an.
Oui.
Et entre deux, il a fait une campagne électorale où il a pourri ses adversaires avec le moindre truc. Il est allé dans l'hémicycle pour dire, on doit prendre en compte dès qu'il y a une main courante, on doit prendre en compte. Il y a des vidéos qui le montrent le dire ça. Ce qui est en dehors du drame absolu d'un divorce. C'est un échec entre un homme, une femme, entre deux hommes, entre deux femmes. C'est un échec sur lesquels moi, j'y étais pas. Je peux pas dire qui a fait quoi, poussé, pas poussé, etc. S'il doit y avoir quelqu'un qui dit la vérité, c'est la justice. Je suis pas juge. J'étais victime de procureurs autoproclamés. Je ne tomberai pas dans ce travers-là. Je ne suis pas juge. Je veux juste dire une chose, c'est que ce qui est éminemment détestable, c'est l'hypocrisie derrière tout ça. Que quelqu'un fasse une fausse, qu'il la reconnaisse, qu'il paye dans la sanction que la justice lui donnera. Et après, on peut passer à autre chose. Okay. Il n'y a pas de peine à perpétuité pour n'importe quoi, et en place publique de guillotinage, comme le disait Péricot.
Il faudra du temps avant de passer à autre chose, comme pour Benjamin Griveaux. Il a fallu laisser, Estelle, même si le problème n'est pas le même, il a fallu laisser plusieurs mois avant que l'affaire s'estompe et qu'on passe à autre chose. Je voudrais juste qu'on prenne Christine, qui nous appelle de Versailles. Bonjour Christine.
Oui, bonjour l'équipe.
Bah, merci d'être avec nous, Christine. Sur RMC, vous vouliez réagir sur cette affaire Adrien Quatennens. Est-ce qu'il doit démissionner ou pas?
Écoutez, je ne sais pas s'il doit démissionner ou pas, j'en sais rien. Mais on ne connaît pas du tout les circonstances dans lesquelles cette gifle a eu lieu. Moi, je vais vous dire, si mon mari m'insulte trop, je suis capable de le gifler. Et n'importe qui. Donc, on ne sait pas. Et là, je viens d'entendre que cette main courante a été déposée il y a un an.
Non, la gifle, il y a un an,
la main courante, il y a une semaine.
Pour d'autres faits.
Ah bon, d'accord.
Pour d'autres faits supplémentaires, oui.
Ah oui, d'accord, ok. Bon, on ne sait absolument pas comment ça s'est passé. En plus, bon...
Il l'a reconnu.
De mon bord, donc je ne viens pas là pour le défendre du tout. Bien sûr que ce n'est pas bien. Bien sûr que c'est grave. Mais c'est quand même beaucoup moins grave que d'autres faits dont on est coutumier tous les jours, dans la rue, des filles qui se font attaquer, des ceci, des cela. Voilà, et on monte en épingle en plus cette affaire. Je trouve que c'est un peu too much. Alors maintenant,
est-ce qu'on peut tolérer ça, Christine?
Pardon?
Est-ce qu'on peut tolérer?
Je ne tolère rien, mais ça fait partie de la vie. Vous avez jamais giflé un enfant par ailleurs?
Non, et j'ai jamais été giflé par un homme non plus.
Non, moi non plus. Et si je le suis, alors je vais vous dire que moi je vais rendre le coup. Voilà.
Oui, d'accord, mais on peut pas résider comme ça, Christine. Je veux dire, une gifle aujourd'hui, c'est condamnable.
Attendez, une gifle, moi je préfère une gifle à une main aux fesses. Je vous dis tout de suite.
Oui, non, mais certes, mais après, on ne peut pas faire un palmarès des mauvais gestes.
Non,
Christine.
On ne peut pas faire un palmarès, mais bon, on ne va pas le monter en épingle. Oui, c'est grave. S'il faut que tous les députés et les élus démissionnent dès qu'ils ont fait un truc, il n'y aura plus beaucoup de monde à l'Assemblée. Et c'est bien plus grave quand on voit que des enfants sont, eux, ils peuvent pas porter plainte. Et qui sont plus ou moins martyrisés, violés, etc.
Oui, bien sûr. Bah, après, c'est un autre débat, mais je comprends votre point de vue,
Christine. Oui, c'est un autre débat, mais
Christine.
Il faut mettre un petit peu de...
Il faut faire preuve de discernement, c'est ce que vous nous dites. Voilà.
Pardon ?
Il faut faire preuve de discernement, et c'est ce que vous nous dites.
De discernement, pas de tolérance, de discernement. Mmh. Et puis voilà, vous voyez, vous en discutez là ce matin, j'écoutais les grandes gueules, ils en ont parlé pendant une demi-heure. Vous voyez, tout ça, ça prend une place, alors qu'il y a aussi des choses grave dont on ne parle pas. Bon, voilà, c'est ça qui m'énerve un peu.
Eh ben, non, merci en tout cas, Christine, pour ce coup de gueule dans Estelle Midi.
Oui, je vous
merci
en prie.
Beaucoup. Merci, Christine.
Bientôt,
alors, vous y réagissez, Robert.
Apparemment, ça fait, il y a de l'eau dans le gaz dans ce couple depuis longtemps. Oui. Puis, non, si elle en est arrivée au dépôt d'une main courante, elle savait très, très bien, eu égard à la position politique de son mari, que ça allait faire du bruit et qu'elle était arrivée au bout. Parce qu'elle aurait pu, effectivement.
Mais elle a demandé à ce que ça ne soit pas. C'est voilà. Ça qui est extraordinaire. Elle y va.
Non, mais à partir du moment.
Elle sait très bien.
Elle n'est pas naïve. Elle n'est pas naïve. Donc
elle savait très bien ce qu'elle allait faire.
Et que là, elle était peut-être un peu au bout du rouleau. Il devait y avoir d'autres actes. La gifle, effectivement, est caractérisée. Mais là, il y a un dépôt de main courante, elle se doutait très bien que ça allait devenir public avec toutes les répercussions sur la position politique de son mari.
Et qui a craqué, voilà.
Enfin, encore une fois, une gifle...
C'est inexcusable, mais ça fait partie des choses de la vie.
Mais parce que pour autant,
c'est à mettre sur le même plan que un mandat politique élu par le peuple. Alors face à Quatennens, il sauterait. S'il avait Quatennens en face de lui, Quatennens saute. Quatennens demanderait la démission.
Oui, tout à fait. Bien sûr.
Question
qu'il peut se poser, c'est si une femme députée qu'est-ce qui se passe?
Moi qui suis chrétien, je lui dis, bon, prends la leçon et la prochaine fois, traite ton frère plus respectueusement quand il aura commis une faute.
Voilà.
Puisque t'es de gauche, t'es généreux, tu partages, t'as eu un acte de faiblesse. On va te le pardonner, on va passer l'éponge.
C'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de violence.
Un acte grave,
mais
on va passer l'éponge.
C'est le pour les autres.
Ce que je voudrais, c'est qu'ils en tirent profit, que tous les Français, qu'ils deviennent gentils, sympathiques et tolérants.
Je voudrais juste qu'on prenne Pauline Baron en ligne, c'est notre invitée sur ce débat. Elle est membre du collectif féministe Nous Toutes. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. On parle bien sûr de cette gifle d'Adrien Quatennens. Est-ce qu'à votre sens, un peu comme ce que dit Sandrine Rousseau, il faut qu'il démissionne Adrien Quatennens?
Oui. Il faut qu'il démissionne dans le sens où, en fait, dès qu'il y aura des textes de loi à voter à l'Assemblée nationale concernant la lutte contre les violences de genre et notamment les violences conjugales, quelle crédibilité il aura à voter et à porter ou à défendre quelque chose? Comment on ne remettra pas en cause les propos qu'il tiendra? Et je dirais au-delà de ça, c'est ce que j'entends que ça doit être de lui-même. Je pense que c'est aussi à la France insoumise de l'obliger d'une certaine manière à laisser son poste à son suppléant ou sa suppléante, parce que en fait ce parti politique a quand même depuis quelques mois beaucoup d'affaires qui lui tombent dessus en matière de violence sexiste, sexuelle, conjugale, alors qu'il a porté lors des dernières élections présidentielles, législatives, ces sujets-là, en mode on va les défendre, on va tout faire pour en finir avec les violences, un discours très féministe. Et que là, en fait, il ne met pas du tout en accord ses paroles avec ses actes. Et il y a quand même une forme de, j'irais, de ras-le-bol, en fait, chez les féministes, de voir, en fait, à chaque fois, nos luttes utilisées et mises en avant au moment des élections. Et quand il faut mettre les choses en acte, parce qu'on a dans son parti un homme qui pose problème, on ne fait rien. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on appelle encore une fois à manifester au mois de novembre.
Alors moi je vais me faire l'avocat du diable, Pauline Baron. Évidemment qu'une gifle c'est inexcusable. Là voilà, il y a pas de débat là-dessus. Mais est-ce que ça veut dire que on ne tolère plus aucun écart entre guillemets, c'est-à-dire que Adrien Quatennens, il reconnaît cette gifle. Elle est dans un contexte difficile, ce qui c'est toujours pas excusable. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui la gifle elle a un an, il a reconnu, il s'est excusé. Ça veut dire que sa vie publique, sa vie politique, elle est terminée. Encore une fois, bien sûr que c'est pas excusable de mettre une gifle, mais je veux dire aujourd'hui, on est en train de mettre cette gifle. Et moi, c'est juste ça qui me gêne un tout petit peu. Je veux dire au même niveau que des violences conjugales répétées. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont victimes de féminicides, qui sont victimes de violences, de coups répétés de la part de leur conjoint. Bien sûr que c'est pas excusable une gifle. Bien sûr que même si c'est sous le coup de la colère, c'est pas excusable. Mais c'est un écart. C'est un écart. Est-ce que dans 20 ans, il va encore devoir payer? C'est ça que je veux dire.
En fait, ce qu'il y a sur cette question-là, j'entends ce que vous dites, mais c'est parce qu'il y a une méconnaissance en fait de comment se passent les violences conjugales. On a l'impression qu'une gifle arrive comme ça, un peu comme un cheveu dans la soupe. En fait, non. Une gifle, en fait, elle arrive aussi au bout de violences psychologiques qui sont la mise en place de l'emprise. Et les violences se sont répétées. Elle le dit elle-même, il y a eu d'autres actes de violence. Il évoque le fait, par exemple, une fois de lui avoir pris son téléphone portable. Ben, ça aussi, c'est une forme de violence, en fait. Prendre le téléphone de quelqu'un, c'est une forme de violence. Et je dirais en plus, il y a un côté, on dit oui, il a reconnu les faits, etc., etc., mais il se déresponsabilise énormément dans son communiqué de presse.
Oui, en disant alors c'est un contexte compliqué, etc.
C'est
oui,
un je suis contexte d'accord. compliqué, et même en mettant un peu la faute sur son ex-conjointe, puisque lorsque dit quand il lui prend le téléphone.
Oui.
Ah, on vous entend plus. Allez-y, Pauline.
Oui, elle lui saute sur le dos et en redescendant, pas de chance, elle se cogne contre un meuble.
Maintenant, oui, mais alors, Pauline, moi je vous pose la question. Si c'est une femme députée qui gifle son mari, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut
la
arriver.
De la même manière.
D'accord.
De la même manière, comme on demande le retrait de la ministre Exarchopoulos, qui a commis des viols, qui a mis en cause pour des viols gynécologiques. Voilà, la différence qu'il y a...
À vérifier, madame, à vérifier.
On met au conditionnel, bien sûr.
Et si c'est vrai, c'était abominable. Je ne défends pas, mais voilà. Assurons-nous que ça soit...
Oui, oui, voilà, c'est au conditionnel. Donc c'est même traitement pour les hommes et les femmes, c'est ce que je voulais entendre, et c'est aussi une question qui se pose également.
La différence, c'est que ces violences à l'encontre des femmes, et plus largement des personnes LGBTQIA+, elles sont comme socle, comme racine, tout ce patriarcat, et le fait aujourd'hui de dire... Bon, allez, une gifle s'évadera. En fait, et de le laisser en place, ça fait aussi passer dans l'opinion publique l'idée
le fait que, c'est pas grave.
Que les violences, c'est pas grave.
Ou que ça peut être passionnel.
Fait, dans le continuum des violences, une gifle va entraîner une autre forme de violence, etc., etc. Et en fait, on reste dans le fait que les violences de genre se perpétuent.
Ben merci beaucoup Pauline Baron d'avoir été avec nous sur ce débat. Vous voulez rajouter quelque chose Jérôme?
Oui, parce que j'ai lu attentivement son communiqué. D'ailleurs, on n'a que sa parole à lui, on n'a pas sa parole à elle. C'est pas du tout, je reconnais ma faute, ce qu'il fait, parce qu'il parle de la claque, alors c'est pas dans la main courante. D'accord? Il évite simplement, en listant un certain nombre de faits, d'éviter ce qu'on appelle en communication politique le feuilletonnage. C'est-à-dire de nier ou d'amoindrir et d'avoir une nouvelle information dans le canard enchaîné ou ailleurs dans 8 jours et dans 8 jours. Donc il dit je balance tout en une seule fois, comme ça j'ai pas de nouvelle info supplémentaire qui sortira pour éviter de feuilletonner pour que... Parce qu'on va tous s'occuper d'autre chose après, c'est normal. On ne parle plus de ça. Donc c'est juste un artifice de communication de politique. Le fait qu'il évoque de lui-même et qu'il s'auto-incrimine en évoquant des faits qui ont eu lieu il y a un an, c'est pour éviter qu'après audition des uns ou des autres, on ait des fuites et du feuilletonnage.
Il solde le dossier.
Voilà. Enfin, ça va quand même être compliqué pour lui de rester parce qu'il ne pourra plus...
D'autant plus que c'est...
Là, dans les semaines et les mois qui viennent, il ne sera plus audible.
Parce que c'est contraire à la ligne qu'il défendait.
Mais en plus,
de manière... Maintenant, il
peut. Oui, mais alors attendez. En même temps, je suppose que dans l'histoire de la République française, d'autres députés ont quelque part, quelquefois, giflé.
Mais ça, c'est pas su.
On l'a jamais su.
On l'a jamais su.
Alors, parce que lui, ça se sait, parce qu'il est allé.
Est-ce qu'il a reconnu? Bah oui, Péricault,
Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été peut-être beaucoup plus violents qu'eux dans l'Assemblée nationale, aujourd'hui en siégeant, et dans d'autres instances de la République, peut-être y compris dans le gouvernement ou au Sénat. Ces gens-là, comme ça s'est pas su, vont continuer à légiférer. Alors que lui qui a reconnu sa faute. Alors, il faudrait qu'il aille un petit peu plus loin dans la connaissance de la faute, voilà. En disant, j'en tire les conséquences, voilà, c'est un geste absolument abominable, qui est contraire à mes principes. Si déjà, il fait ce qu'on appelle une autocritique chez les marxistes...
Péricault, il y a un an, il était député.
Oui.
Il y a un an, il a reçu... Il lui a donné une gifle il y a un an. Elle n'a pas déposé de main courante. Il était déjà député.
Oui.
Donc, elle a attendu
bien
qu'il
puisse
passer d'autres choses depuis un an. Et au bout d'un moment, ras-le-bol, elle dépose cette main courante. Et qui déclenche tout.
Surtout qu'on ne connaît toujours pas le contenu de la main courante.
Oui.
De quels sont les faits.
Oui. À mon avis, on va le découvrir bientôt. Il y a des gens qui vont se mettre sur le dossier. En tout cas, vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Adrien Quatennens peut-il rester député? Ça donne quoi, Rémi?
C'est assez radical. C'est non. 76% de ceux qui sont prononcés sur les...
Crédibilité des politiques, hein. On revient à l'abstention, on revient à tout ça.
Voilà, et le devoir d'exemplarité, évidemment. Dans un instant, on parle de cette image qu'on a tous vue ce week-end. Emmanuel Macron en basket avant les funérailles de la reine à Londres. Est-ce que ça vous choque? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, Canal 23, dans Estelle Midi, évidemment, avec Rémi Barré, Perico Légas, Jérôme Lavrieux et Robert Sobag, avec vous également au 32-16, pour réagir à notre débat, là, le prochain débat, sur le faux pas du jour. Et ce faux pas, c'est celui d'Emmanuel et Brigitte Macron, en déplacement à Londres, pour les funérailles de la reine Elisabeth II. Le couple présidentiel est arrivé en basket, et cette tenue a choqué outre-Manche, Rémi.
Ouais, le Daily Mail s'est même fendu d'un article qui décrit avec détail les tenues du président de la République et de la première dame de France, dit le journal. Attention, ce sont les tenues qui étaient portées avant que le couple n'entre dans la cathédrale de Westminster. En tout cas, il faut le préciser, pour rendre hommage à la dépouille d'Elisabeth II. Quoi qu'il en soit, donc, le Daily Mail décrit Monsieur Macron, qui est rarement vu sans son habituel costume bleu, a été aperçu avec un ensemble plus décontracté, composé d'une veste bleue très foncée, un pantalon couleur charbon et des baskets noires, comme sa femme qui a choisi un look similaire. Des tenues qui n'ont pas manqué de susciter quelques commentaires sur les réseaux sociaux, certains évoquant une négligence en pleine période de deuil outre-Manche. Un coup de com' malvenu pour un président qui veut se montrer branché pour d'autres. Images et commentaires qui ne sont pas sans rappeler l'épisode du sweat à capuche. Souvenez-vous. Souvenez-vous, c'était des photos prises le 14 mars dernier avec l'aval de l'Élysée. Une photo officielle montrant pour la première fois en France un président en sweat à capuche pendant l'exercice de ses fonctions, mal rasé, passant une nuit de travail sur le dossier ukrainien. Là encore, certains avaient dénoncé un coup de com' malvenu. C'était à l'époque à un mois du premier tour de la présidentielle.
Alors Emmanuel Macron en basket avant les funérailles de la reine, est-ce que ça vous choque? Je vous sens très énervé, Robert Sobag.
Oui, elles étaient noires. Il n'est pas arrivé à Buckingham pour le dîner puisqu'il est arrivé hier après-midi. Ouais. Il n'est pas arrivé à Buckingham avec des baskets. Non. Bon, il est arrivé, il s'est promené dans Londres. Et franchement, le niveau du débat, je répète, moi j'arrive du Vietnam, d'un pays qui sort de la Covid, avec des problèmes politiques, des problèmes de santé. Je ne suis pas président de la République, mais franchement, passer des heures sur la tenue du président de la République en dehors de manifestations officielles, parce qu'il portait des baskets noires.
Enfin, il savait qu'il allait être regardé, il pouvait faire du sport.
Il allait être regardé.
Il était pas
en Bermuda, il était pas en espadrille, il était avec une veste noire.
Il est président de la République.
Il est président de la République.
Le général de Gaulle aurait fait ça.
Non, le président de la République, de toute manière, il avait des pieds tellement grands que je pense que les pointures de basket à l'époque n'allaient pas jusqu'au 47 ou 48. Bon, trêve de plaisanterie. Vous croyez qu'on est à ce niveau de débat avec ce qu'on vit aujourd'hui? Il y a une guerre en Ukraine, il y a des problèmes énergétiques, il y a des problèmes de santé qui risquent de réapparaître, et on nous parle de la tenue d'après-midi.
Enfin, ça, on va parler du Covid toute la journée.
J'ai pas dit qu'on allait parler du Covid. Il y a une situation internationale. Il y a le reste du monde, et puis on nous parle des baskets.
Mais parce que c'est quand même important, c'est un symbole.
Les symboles sont importants. Le symbole, on a un avec les obsèques de la reine. Ça, c'est un symbole extrêmement fort.
Justement, mais pas la tenue de la reine,
président avec des baskets, franchement.
Enfin, peut-être pas des mocassins, d'ailleurs, des boots. Enfin,
Qu'est-ce que vous en savez et comment vous pouvez me prouver que le général de Gaulle a jamais mis de baskets?
Excusez-moi, vous avez déjà vu une photo de général de Gaulle en basket?
Ah non, mais
parce que si vous en avez une, donnez-la-moi, parce que je n'ai pas vu.
Non, à la Boissière, il avait des charentaises.
À l'époque, la communication, on ne diffusait que ce qu'on voulait diffuser.
Il n'y avait pas de photographes partout, comme aujourd'hui.
Il n'y avait pas de photographes partout, on nous montrait ce que l'on voulait nous montrer.
Mais Jérôme, vous avez fait de la communication politique, il savait très bien qu'il allait être pris en photo. Oui. Donc c'est fait exprès, ne dites pas l'inverse. Bah, donc il l'a fait exprès. Est-ce que c'est malin?
Pour moi, c'est une manière d'assumer. Un, on n'est pas en monarchie, donc il n'est pas obligé de dormir en costume. Non plus. Ouais, bah, il peut arriver.
Il
voit l'image.
Il faut arrêter.
Ceux qui nous écoutent à la radio ne voient pas l'image. Là, on a l'image. On dirait un acteur hollywoodien.
Mais c'est aussi un problème.
Dessus, ce sont ceux qui étaient montés au créneau pour défendre la première ministre finlandaise parce qu'elle a été dansée. C'était un scandale absolu.
Et quel rapport?
Eh ben, ils sont pas présidents 24 heures sur 24.
Sauf que là, il est en déplacement officiel. Je suis désolé, Jérôme, il n'est pas à la lanterne.
Une demi-heure après, il est allé dans le hall où il y avait le catafalque de la reine d'Angleterre. Oui. Il était habillé en costume, trois pièces
avec
en plus.
Avec des chaussures,
il n'est pas des baskets.
Mais qu'est-ce que ça peut faire?
Mais en fait, je suis désolée, vous êtes président de la République, il y a une tenue à avoir.
Mais c'est pas mon roi, c'est mon président.
Et alors?
Messieurs, vous êtes un grand médecin, docteur Sebag, vous êtes toujours un homme public impliqué dans la politique. Vos arguments sont irrecevables.
Merci.
Le président de la République française doit être irréprochable en toutes circonstances dès lors qu'il apparaît en public. C'est sa fonction.
Mais non.
C'est
non.
sa fonction. Non. Et ce monsieur, qui ne passe sa vie à communiquer, là, il veut nous dire quoi ? Je suis jeune.
Exactement.
Je suis jeune, je suis décontracté, vous voyez. Je viens à l'enterrement de la reine d'Angleterre. Je suis le
peut-être
principal
partenaire. Peut-être qu'il veut juste nous dire qu'il a mal aux pieds.
Il est le président du principal partenaire de la France. Il est le président d'un pays que l'Angleterre a secouru en 1940 et en 44. Nous avons des liens historiques exceptionnels avec cette monarchie qui s'est toujours... Quand les Anglais sont venus en France, ils sont toujours été impeccables. On n'a jamais vu la reine, elle est venue 20 fois. La reine d'Angleterre, même dans ses visites privées, quand elle allait chercher son champagne ou son saucisson, elle était impeccable. Par respect pour l'histoire de la Grande-Bretagne, pour cette dynastie, pour ce qu'il représente, il ne peut pas s'habiller comme ça.
Il a une veste de costume, avec
ses lunettes de soleil d'acteur américain. Ce qui me choque, c'est absolument pas grave. Et puis voilà, il y a une chose de plus grave, que lui n'ait pas ressenti le besoin dans sa dignité, de sa fonction. Il est si soucieux sur le protocole. C'est quelqu'un qui veut redonner l'image.
Non, mais ça va.
Je vais poser une question simple.
Ah bon,
monsieur Lavrieux, docteur Sebag, est-ce que Jupiter se balade en basket quand il va à l'enterrement de la reine d'Angleterre?
Il est en déplacement officiel. Il n'est pas chez lui au tout.
Mais vous me faites marrer.
Quoi?
Quand vous êtes les premiers à critiquer la présidence jupitérienne.
Et quand il l'assume.
Comme le commun des mortels, la seule chose, c'est qu'il a des gardes du corps autour de lui.
Il n'est pas là-bas en tant que commun des mortels, il est là-bas en tant que président de la République.
Quand il est allé au moment public, protocolaire, il était habillé de manière totalement...
Parce qu'il ne se doutait pas qu'il y aurait des photographes dans la rue.
Il est tout le temps.
Et donc là,
Jérôme, il est président en permanence.
Mais le pendant que vous y allez.
Non, Jérôme, il est
président. Jérôme,
il est président. Tout le temps.
Mais oui.
Il est président.
Périgo.
Tout le temps.
Ce qui me choque le plus, c'est les lunettes de soleil plutôt que les baskets.
À la rigueur.
Vraiment.
À la rigueur. Mais non, c'est le look général. Et je vais vous dire autre chose.
On a l'impression qu'il veut pas être connu. Je vais me faire lyncher.
Je m'en fous. On ne tient pas la main de son épouse dans les circonstances pareilles. Voilà. On tient pas la main.
Pourquoi?
C'est un détail, c'est absurde. Bah il est président de la République française.
Non.
Mais ils sont ensemble, ils sont mariés. C'est
bah
un peu
c'est très bien.
Voilà, ça veut
on
dire.
On est vraiment.
Ça veut dire quoi? C'est la famille française.
Monarchiste, quoi.
Vous voyez.
On adore leur couper la tête. C'est ce qu'on a entendu d'ailleurs.
Jérôme, regardez le protocole qui est autour de lui. Il y a ses gardes du corps, la sécurité.
C'est de la sécurité.
Non, mais justement, il y a tout le temps. Toute l'Angleterre le regarde. Ça veut dire, il dit quoi au peuple anglais?
Tout vient du fait que tu confonds protocole cool. et sécurité.
Bon, cool. Il est cool. Je suis le président cool. Eh ben, on n'est pas cool le jour où on va enterrer la reine d'Angleterre.
Tu es président de la culture française et tu es cool.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir sur ce débat et je les comprends. Nous avons Marc qui nous appelle de Concarneau dans le Finistère. Bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Bonjour Marc.
Bonjour Périgo, Jérôme et Monsieur Sebag.
Bonjour Marc.
Il y a le reste.
Ah mais c'est docteur, il est docteur, c'est pour ça.
Bon, non, quelle sommité.
Qu'est-ce que je veux dire. Vous souvenez, docteur Sebag et Jérôme, là, quand un élève de 3e, je crois, avait interpellé Emmanuel Macron, qu'il l'avait appelé Manu,
Il avait réprimandé. Bravo.
Une force terrible en lui disant non, tu m'appelles pas Manu, tu m'appelles le président de la République.
Ouais.
Non, mais vous vous rappelez?
Oui, très bien.
Non, mais écoutez. Il est président de la République du 21 avril 2022 jusqu'au 24 avril 2027, peut-être, bref.
Oui.
C'est 24 heures, c'est 24. Vous vous doutez bien qu'hier, comme je disais à votre standardiste,
Thomas.
Vous doutez bien qu'hier, il n'allait pas à Londres pour aller chez Harrods. Non, mais attendez,
Non, mais il n'est pas débraillé, là, faut pas exagérer.
Il est en basket.
Tu veux voir mes baskets à la télé?
Mais vous n'êtes pas président.
Ah mince.
Vous n'êtes pas président.
On m'a menti, alors.
Non, mais Jérôme, vous n'êtes pas
président.
Et elle
n'a pas de chaussettes.
Voilà. Vous n'êtes pas président. Il a raison, Marc.
Vous n'êtes pas président. Non, mais attendez, voir Brigitte Macron Macron dans cette. Au départ, j'ai cru qu'en étant que c'était une photomontage. Et en fait, effectivement, en allant sur Twitter plusieurs fois, en fait, c'était pas une photomontage. Et franchement, mais. Tous les autres chefs d'État étaient correctement habillés, correctement vêtus. Ça n'a pas sens là.
Mais c'est pas une cérémonie officielle. Il est en privé dans les rues de Londres.
Il n'a rien de privé.
Marc.
Oui.
Tous les autres chefs d'État, on les a vus uniquement dans des images qui ont été faites pour être bien léchées, etc. Dans la partie officielle du programme. Il m'est arrivé, Marc, d'accompagner dans une autre vie bien lointaine un président de la République à de multiples occasions.
Laissez terminer, Jérôme.
Il m'est arrivé de le voir et il y avait du monde autour et il y avait des gardes du corps autour et on venait de quitter un endroit où il était en représentation officielle et de le voir dans des tenues plutôt décontractées.
Mais il avait des côtés plouques. Sarkozy avait des côtés plouques. Avec,
tu l'as reconnu au moins.
Non, non, mais quand il est en conférence de presse avec...
C'est
avec...
pas un monarque. On n'est pas dans une
en
monarchie.
Conférence de presse à l'Élysée, quand il dit avec Carla c'est du sérieux. Enfin, ouais. Bon, c'est,
mais non, mais
c'est
ça, monstrueux, c'est le langage, c'était pas la
d'accord,
c'est
pas mais la enfin, c'est... voilà, mais ils se prennent pour qui?
Il n'est jamais dans le privé. Un il président, est... il n'est jamais dans le privé.
Alors, dès qu'il est à l'image,
bicyclette, quand tu le vois bicyclette,
Robert,
t-shirt,
non, quand
dans la rue du Touquet,
quand il est à l'image, quand il est à l'image, il est en public, il est officiel. Dès qu'il est à l'image, il est en France. Il est la France dès qu'il est à l'image. Donc la France est venue en basket et a débarqué en basket.
Ah. On est avec Laurent également, qui nous appelle de Villeconin dans l'Essonne. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous vos invités.
Bonjour. Et Laurent, vous n'êtes pas choqué, vous?
Ah non, pas du tout. Puis alors, je vais dénoter un petit peu avec ce que j'entends. Je trouve qu'il est vraiment compliqué de nos jours d'être un personnage public.
On est bien d'accord.
Je m'explique. Je trouve que on saute sur tout et n'importe quoi pour venir nous monter des fables et des mayonnaises toute la journée sur un sujet qui n'en est pas un. Je développe très rapidement. Le président de la République était pendant le week-end en train de faire la queue au milieu de tout un chacun, ce qui est déjà en soi respectable. Hein, ouais. Au milieu de tout un chacun pour aller se recueillir sur le cercueil de la reine d'Angleterre. Bien, ce n'était pas le jour de la cérémonie officielle,
non.
Puisqu'elle a lieu en ce moment sous nos yeux.
Bah, il était obligé d'arriver un jour avant.
Donc de venir nous expliquer que le président de la République qui représente la France, etc., etc., hein, il y en a d'autres qui représentent la France, ah oui. et on se soucie pas toujours de leur vertu,
c'est
et
vrai.
De la manière dont ils la représentent.
Hein.
Je précise ça aussi au passage.
Oui, bien sûr.
C'est tellement facile de tirer sur l'ambulance. Et de le faire en permanence. C'est tellement simple. Hein. Alors que le président hier n'était pas en représentation, il était simplement en train de faire la queue pour se recueillir, comme tous les citoyens, les sujets britanniques, et d'ailleurs d'autres personnes qui l'ont fait, pour venir se recueillir simplement sur le cercueil de la reine d'Angleterre. Aujourd'hui, là, il représente la France. Aujourd'hui, ouais. Oui, il représente la France en tant que chef d'État présent à la cérémonie officielle des funérailles, et à ce que je sache, il n'est pas en basket.
Non. Bah c'est
voilà.
Sûr.
Donc, franchement, très sincèrement, qu'on arrête un tout petit peu ce type de mayonnaise permanente.
Bravo Laurent.
Il y a des sujets bien plus importants au niveau géopolitique en ce moment à commenter que de savoir quelles chaussures porte le président. Et d'ailleurs, j'ajoute pour terminer, sans vouloir être trop long et vous monopoliser l'antenne, que n'aurait pas-t-on dit si le président avait porté des Weston? Ah, mais les Français se serrent la ceinture en ce moment, après le jet ski, le président hors sol qui porte des chaussures à 1 500 €, etc., etc. Voyez comme la
justice est facile. C'est fabriqué à Limoges, les Weston, et c'est de fabrication française, et ça fait vivre des centaines de personnes.
Je vais pas vérifier, c'est des baskets françaises, j'ai pas vérifié.
Quelqu'un aurait quand même trouvé encore à retirer.
Ah bah bien sûr.
Alors, c'est pas nous, c'est la presse britannique qui s'est offusquée. Non, on ne réagissera pas.
Merci,
Pierre.
On commente. Alors,
on va voir Laurent, justement, si les auditeurs des RMC et nos internautes sont d'accord avec vous. Merci, Laurent et Marc, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Emmanuel Macron en basket à Londres, est-ce que c'est choquant, Rémi?
C'est le nom qu'il emporte, mais d'une course de tête. Peut-être 55%.
Ah, c'est kiff-kiff. On est dans la marge d'erreur.
Il y a encore des Français qui se
plaignent.
Dans un instant, Anthony Morel, qui va nous expliquer comment éviter les problèmes de stationnement grâce aux nouvelles technologies. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h50, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, bien sûr. Et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Anthony Morel, aujourd'hui nous allons parler d'un vrai problème de société. Ce sont les problèmes de stationnement. Et heureusement, Anthony, vous êtes là pour nous aider.
Oui, c'est un gros sujet quand même. On estime qu'il y a 30% des embouteillages qui sont liés à ce qu'on appelle le trafic parasite. Donc les gens qui cherchent une place, ils sont lents et puis on est tous derrière eux. Bon voilà, on a tous connu ça évidemment. Et il y a plein de solutions qui sont en train d'arriver. Tiens, par exemple, un robot voiturier. Un robot voiturier qui est testé en ce moment, depuis un moment d'ailleurs, à Lyon, à Saint-Exupéry, donc à l'aéroport. C'est alors quand je dis robot voiturier, c'est pas Terminator qui rentre dans votre voiture qui prend le volant, mais c'est un robot qui a été conçu pour garer votre voiture, j'allais dire au millimètre, au chausse-pied, à votre place. Donc vous arrivez au parking, vous laissez votre voiture et vous avez ce robot qui prend la forme en fait d'une sorte de transpalette, c'est un peu comme les transpalettes qui transportent les cajots de melon au supermarché, c'est un peu la même chose. Il arrive, il va venir, les fourches viennent sous la voiture, elle la soulève tout doucement. Et ensuite, elles vont venir la garer, mais comme un jeu de Tetris en fait dans le parking. Donc l'avantage, c'est qu'on peut en mettre beaucoup plus si vous voulez. Vous pouvez vraiment les garer à touche-touche, il y a aucun problème parce que c'est une machine, évidemment, elle va optimiser ça aux petits oignons au millimètre. Donc sur un parking, vous allez gagner 50% de place et puis vous n'avez pas besoin d'attendre pendant des plombes. Vous laissez votre voiture à l'entrée et c'est le robot qui s'occupe de tout.
Et comment
donc,
je la récupère?
Et ben après vous revenez, vous récupérez.
Il la ramène
pour vous en fait. Vous lui demandez en fait, ça passe par l'application. Vous récupérez votre voiture. Bah si, c'est génial. Vous gagnez du temps.
Ça marche déjà. Ça
fonctionne déjà. Alors c'est en test à l'aéroport Saint-Exupéry et à deux ou trois autres endroits en France, mais ça pourrait se généraliser. Et c'est une start-up française qui s'appelle Stanley Robotics qui a mis ça au point, ce robot incroyable.
Et pas besoin de laisser une pièce en plus.
Et en plus, il n'y a pas besoin de laisser une pièce.
En attendant que ce robot génial arrive partout en France, on fait comment?
Alors, il y a des applications. Pour l'instant, il y a des applications qui fonctionnent très très bien. Je vais vous en citer quelques-unes. Coco Parks, par exemple, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est comme ça. Coco, comme un coco, COCO plus Parks. Ou encore Path to Park. Et en fait, ce sont des applications qui vont utiliser de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données pour prédire d'une certaine manière autour de vous les rues où sont le plus susceptibles d'avoir des places libres. Donc en gros, vous choisissez, enfin vous dites je veux me garer maintenant, et en fait à partir de données de circulation des jours précédents, de données de trafic, etc. Eh bien l'application va vous dire voilà, va dans cette rue là, tu as des chances de trouver une place libre. Et ça fonctionne assez bien. Donc ça permet de pas avoir à tourner.
Il y a des gens qui font ça.
Oui, bien sûr.
Qui vont sur des applis de stationnement avant d'arriver dans un lieu.
Ah bah attendez, c'est super pratique. Ça peut vous faire éviter de passer 20 minutes à chercher une place
dans personne qui sont connectés. C'est encombrement assuré si tout le monde y va en même temps.
Mais oui. Ouais. Bah non, ça parce c'est que comme Waze. Il fallait prendre un raccourci et que tout le monde se retrouve sur une petite route de campagne.
Mais normalement, c'est bien fait parce que en plus, il y a le côté collaboratif où les gens peuvent dire là, il y a une place, là, il y a pas de place. C'est comme sur Waze en fait.
C'est le coyote.
Exactement. Alors une autre appli qui fonctionne pas mal. Alors Zen Park, vous connaissez ça parce qu'il y a plein de petits logos dans les grandes villes.
Zen Park.
Ouais. Et Zen Park, en fait, ça va vous trouver des parkings cachés en fait dans les villes. C'est-à-dire qu'ils ont fait des partenariats avec des hôtels, avec des résidences privées, avec des immeubles de bureaux là où il y a des places en général en journée qui sont jamais occupées, mais auxquelles vous n'avez pas accès normalement. Et donc là, on vous géolocalise, on vous dit bah là, il y a un immeuble de bureaux, hop, tu peux y aller, t'as une place. On paye hein, évidemment, c'est un parking payant, mais au moins vous avez accès à des places auxquelles vous n'auriez pas accès en temps normal. Ça fonctionne très très bien. Et il y en a de plus en plus un peu partout en France, dans les grandes villes notamment.
Enfin, l'idéal serait quand même que notre voiture puisse se débrouiller toute seule pour trouver une place et se garer.
Oui, alors on y arrivera sûrement, ça c'est vrai. Je vous parle souvent de voitures autonomes, mais même en attendant ça, alors il y a plusieurs choses. D'abord, les voitures vont de plus en plus parler entre elles, elles se parlent, voilà, elles se communiquent, ce qu'on appelle le vehicle to vehicle. Et ça c'est génial parce que la voiture qui est devant vous, elle va cartographier d'une certaine manière les places de stationnement qui sont libres et elle va vous les envoyer à vous. Donc vous allez avoir une cartographie en temps réel et vous voyez les places qui se libèrent ou pas à un instant T. Ça c'est pas mal. Et la deuxième chose, c'est que vous avez des systèmes. Alors il y a notamment Ford qui travaille là-dessus, Valeo aussi qui est un équipement français de stationnement automatique. Il y a déjà des aides au stationnement maintenant dans les voitures.
Ça.
Ouais, c'est pas mal, ça fonctionne assez bien.
Ah oui, sauf qu'au début, je croyais que ça freinait tout seul et pas du tout.
Ah oui, c'est ça, donc ça met un peu en stress.
J'ai cartonné la voiture de derrière.
Non, c'est pas vrai.
Ah bah si. Je pensais que ça freinait tout seul.
L'assistance à la conduite va pas jusqu'au bout. Mais là, c'est encore mieux. C'est-à-dire que vous arrivez dans le parking d'un supermarché, par exemple, vous laissez votre voiture et c'est K2000, quoi, le truc. La voiture, en fait, elle va aller détecter elle-même les places de stationnement qui sont libres et elle va aller faire son créneau automatiquement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En cours de développement d'ici un an ou deux, on va dire.
Ah, voilà. C'est bien ça.
Ouais, c'est des choses qui vont arriver assez rapidement.
Et puis après, elle fera les courses, évidemment.
Elle est
et
géniale, après, cette rubrique d'Anthony.
Quand même.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, midi 50, dans Estelle Midi, dans un instant, on nous dit désormais comment nous laver les mains, à combien on doit mettre le chauffage, quand est-ce qu'on doit faire des machines à laver le linge, est-ce qu'on nous infantilise trop, est-ce que vous en avez marre de ces injonctions. Dites-nous tout au 32-16. À tout de suite sur RMC.